Des retournées.
Musique au musée, les musiciens de l'Orchestre National de France explorent les trésors du muséum avec Maurice, le dodo voyageur. Rendez-vous le 5 avril à 16h au Jardin des Plantes.
La musique comptée, expliquée, jouée tous ensemble, petits et grands.
Infos sur concert.radiofrance.fr ou découverteonf.fr.
France Bleu, les concerts privés.
Avec ou sans toi, c'est pas la même chose.
Les concerts privés présentés par Élodie Suigo avec Gaël Faure et Pascal Obispo.
Jeudi 27 mars à 21h sur France Bleu.
Arigato.
France Bleu, un réseau du groupe Radio France.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Bleu.
France Inter.
La voix est libre.
Tout frais, tout dispo, Daniel Mermet, il est là, c'est là-bas si j'y suis.
Salut Daniel, c'est Yvan de Châteauroux. Moi j'ai un petit conseil à donner au Parti Socialiste, là, s'il ne veut pas ramasser la semaine prochaine, s'il leur reste une semaine pour augmenter les salaires, pour interdire les licenciements des entreprises qui font du bénéfice, de mettre un SMIC à 1500 voire 1700 euros, et augmenter les retraites, augmenter les minima sociaux, faire vraiment une politique de gauche. Il leur reste plus qu'une semaine, sinon ils vont ramasser. Et comme ils ne vont pas le faire, eh ben, le Front National il sera devant eux aux européennes, et puis on aura tout gagné, nous, les gens de progrès, les gens de gauche. Voilà, salut Daniel.
Alors avec le Front National, non seulement ça fait mal au cul, mais en plus ça fait mal au cœur.
Salut Daniel, ce matin en arrivant au travail, il y a un jeune des quartiers nord là, qui est avec moi en formation cette semaine. Bon, je n'étais pas au courant. Il est à côté de moi, là, on discute depuis deux petites heures. Et ben, quand il me raconte un peu sa vie dans le 15e arrondissement à Marseille, hein, et ben, même pas ça me choque qu'il y ait un taux d'abstention si haut, que le Front National fait un carton, même pas ça me choque. Il me parle de sa vie, il me parle de ses collègues. Il me parle du chemin qu'ils prennent. Et ben franchement, ça fait vraiment de la peine. Et c'est vraiment difficile. Et là, il a commencé à travailler, ça fait une semaine. Et il m'a dit que s'il ne trouvait pas ce travail, il est content. Et ben il était capable d'aller prendre un flingue et d'aller dans une entreprise pour qu'il lui signe un CDI là où il avait promis. Bref, l'injustice sociale. Voilà le taux d'abstention. Voilà le FN qui fait un gros score. Ben moi, même pas ça me choque quand on a un gouvernement qui se proclame de gauche et qui fait une bonne politique de droite. Allez, salut, bonne fin de journée.
Salut à tous, des nouvelles du Sud-Est. Vous savez de quoi je vais vous parler? Non, faut pas péter plus haut que son. Nous, il y a deux mois, on a monté une liste parce qu'il y avait le choix au village contre l'UMP et le Front National. Eh ben, on a beau être dans l'Est varois, on a beau être dans un endroit qui vire vraiment marine, on a quand même une satisfaction, même si on fait que 21%, on est devant le Front National. Et ça, franchement, ça nous a mis la patate. Allez, ciao viva, portez-vous bien.
Daniel, pourquoi sur France Inter le matin, il y a des promos pour les autres émissions, pour le téléphone sonne, pour plein d'émissions? J'ai jamais entendu une bonne annonce pour promouvoir là-bas si j'y suis. Est-ce que c'est toi qui veux pas? Est-ce que c'est plus haut que ça veut pas? On aimerait bien savoir en tant qu'AMG, puisque je n'ai jamais entendu une bonne annonce de promotion de là-bas si j'y suis à France Inter. Voilà. Est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus? Merci Daniel, à bientôt.
Alors hier soir, jeudi, vers 18h30, j'étais tranquillement chez moi, quand soudain, on sonne à ma porte. Tam tam tam. Jour, qu'est-ce que je vois? Le maire et l'ancien maire. Elle est pas belle la vie? Hein, je leur ai envoyé des mails à tour de bras pour leur dire qu'à côté de chez moi, il y avait un carrefour accidentogène. Ils m'ont jamais répondu. Et là, comme par hasard, le maire et l'ancien maire. Extraordinaire. Bon, on a discuté, pour rien, mais on a discuté. Hein, au moins les élections, ça sert à ça. Le maire, il vient à la maison. Super.
Bonjour, il y a aussi un proverbe de sagesse africaine que j'adresse à chacun. Celui qui gobe une noix de coco doit faire confiance à son anus. Bonne chance.
Voilà, c'est malin. Tout le monde rigole. Merci pour ce petit message. Pour ces très importants messages, la réponse à pourquoi y a-t-il pas de promotion pour là-bas si j'y suis, mais c'est le choix de la direction, dites donc. Mais oh, voilà, si vous voulez avoir des explications, nous, on est tout à fait favorable à des promos de notre émission. Mais si vous voulez avoir des explications, vous tournez vers la direction de France Inter. Aujourd'hui, on va s'intéresser, ben justement, tiens, ce qui gomme des noix de coco, le grand détraquage avec... oui, parce qu'on dit, bon, ben, le FN est à gauche, la gauche est à droite, la droite est foutue, l'abstention l'emporte, l'Europe est une impasse, les Français n'y croient plus, et puis les commentateurs non plus. Alors on s'est dit, on va essayer de prendre un peu l'air, d'essayer d'autres pistes et d'autres outils et d'autres regards et de se faire une heure stimulante et détraquée. L'idée de détraquer, de détraquage, c'est une idée d'Emmanuel Todd. Il dit ça très souvent, oui, ça c'est détraquer. Et bien on l'a fait venir pour ça, mais pas seul, on l'a fait venir avec François Ruffin. François Ruffin, vous le connaissez, et ils s'entendent bien tous les deux, enfin on va voir dans quelle mesure. Et Ruffin a sorti deux bouquins sur Bruxelles et sur le Front National. Donc voilà, on va passer cette heure avec ces deux oiseaux-là. Auparavant, je voudrais rendre un hommage à Jean-Luc Einaudi. On a appris la mort de Jean-Luc Einaudi, qui était un ami de la basse J'y suis. Et on l'avait rencontré, j'ai calculé, il y a 23 ans, en 1991. Il avait publié un bouquin remarquable intitulé « La bataille de Paris » sur le 17 octobre 1961. Et 61, 91, 30 ans après les massacres des Algériens en plein Paris par la police de Maurice Papon, c'était une histoire qui à l'époque était très mal connue. Et son livre a été un choc, et grâce à lui, grâce à ce livre, nous avions à l'époque fait une série de reportages avec des témoignages sur ce sujet qui avait eu un certain écho. Et en tout cas, son livre a été fondateur de la prise de conscience et de la connaissance de ce qui s'était passé ce jour-là. Jean-Luc Einaudi était éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse, des grands historiens, à lui dire « mais oui, vous êtes un historien », etc. Il s'en foutait un peu, « ouais, bon d'accord, mais enfin je suis d'abord avant tout un enquêteur ». Et il avait fait ça lui-même, il était parti lui-même enquêter très, très précisément, très soigneusement pour ses bouquins. Alors ça a été le premier, puis il y a eu toute une suite de bouquins toujours autour du thème du colonialisme et des suites du colonialisme de l'Algérie. En 1997, à Bordeaux, il avait témoigné contre Maurice Papon, qui en 1997 était jugé pour son rôle dans la déportation des Juifs. Maurice Papon l'avait ensuite poursuivi pour diffamation. Et en 1999, donc, j'avais eu l'honneur de faire partie des témoins dans ce procès à Paris, et Maurice Papon a été débouté de ses plaintes. Et ça a été une étape importante dans le chemin vers la reconnaissance de ce crime d'État que fut le massacre du 17 octobre 1961. Voilà quelques mots à la mémoire d'un homme bien, seul, qui était un militant, mais un homme seul qui avait parfaitement utilisé et comment sa marge de manœuvre. Donc, lisez ses bouquins, relisez au moins celui-là, La bataille de Paris, et hommage et au revoir à un très grand bonhomme. On rejoint nos deux invités, Emmanuel Todd et François Ruffin, quand on gobe une noix de coco. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Dis donc, Daniel, je voulais te dire, M. Sarkozy se plaint que l'on s'assoie sur la présomption d'innocence. Mais lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, en juin 2003, lors de l'arrestation d'Ivan Colonna en Corse, il a déclaré devant des millions de Français à la télévision, je cite, « L'on vient d'arrêter l'assassin du préfet Erignac », ce qui a donné lieu par la suite, bien sûr, à un procès parfaitement inéquitable et qui a peut-être condamné, par raison d'État, un innocent. Salut !
Bonjour à tous, je vous appelais pour vous signaler qu'on vit vraiment une époque formidable et dans un monde formidable. J'habite dans une petite commune des Vosges, près d'Épinal, ma femme est conseillère municipale, elle se représente là pour un deuxième mandat sur l'unique liste du village. Et là, elle vient de m'apprendre qu'en fait, grâce à la préfecture, toutes les listes du département qui sont sans étiquette, se voient imposer par la préfecture l'étiquette divers droite. c'est pas une blague. Pourquoi et de qui vient l'idée, ça c'est impressionnant. La raison annoncée, c'est qu'ils veulent en fait faire des statistiques. Alors pourquoi imposer divers droites à des communes qui se réclament sans étiquette? Ça, c'est un grand mystère. Et ben, en tout cas, il y a un parti qui sera content, parce que dans tous les petits villages où il n'y a qu'une seule liste sans étiquette, eh bien ils seront forcément élus. Hein, soyons pas fous, il y a quand même de grandes chances pour qu'ils soient élus. Et ben voilà, et ça fera de plus en plus de communes divers droites. C'est bien ce que je disais, on vit une époque formidable.
Salut aux AMG Angevin. Le Café Repère d'Angers, en partenariat avec Attaque 49, vous invite à rencontrer Yanis Yuluntas, écrivain, philosophe, réalisateur du documentaire « Ne vivons plus comme des esclaves », portrait d'un quartier d'Athènes au cœur de la Grèce qui résiste. Rendez-vous mardi 25 mars, projection de son film à 20h, salle de la Cité, boulevard du Doyenné, suivi d'un débat en sa présence jusqu'à 23h. Participation libre. Ciao.
Je voudrais rappeler à tous ceux qui votent Front National en France que ce parti est pour la peine de mort. Hein, je rappelle, ce parti est pour la peine de mort. Réfléchissez à deux fois, je pense, avant de mettre votre bulletin dans l'urne le dimanche prochain. Réfléchissez, sincèrement.
Au niveau national et dans certaines villes particulièrement, la sanction contre le gouvernement et contre François Hollande a été particulièrement forte.
C'est incontestablement un message.
Ce dimanche est un jour sombre pour la France.
On ne constate par ailleurs aucun retour en grâce de l'UMP. Nous sommes très loin de la vague bleu pâle annoncée.
Je veux vraiment, vraiment appeler les Françaises et les Français qui ont, d'une certaine manière, adressé un carton jaune en ce premier tour, à adresser un carton rouge la semaine prochaine, notamment ceux qui ont voté pour le Front National, à voter massivement pour les candidats de l'UMP dimanche prochain.
C'est la fin de ce mouvement de balancier automatique qui faisait passer une ville d'un camp à l'autre sans que l'UMPS n'ait pourtant démontré le moindre mérite.
Quand on voit à la télévision pendant 20 jours Big Malion, Buisson, les écoutes, ça donne pas envie.
On ne peut pas nier que la signification de ce scrutin, c'est un désaveu majeur de la politique gouvernementale.
Dans plusieurs villes de notre pays, le Front National, ce soir, est en tête.
Il y a un rééquilibrage, mais perdons pas de vue que tout ça, c'est d'abord de la grosse colère du peuple français, pour pas dire le contraire. Sinon, on n'est pas dans la réalité.
Par ailleurs, nos excellents scores, dans certaines villes où nous arrivons en tête au premier tour, nous donnent évidemment beaucoup d'espoir pour le second tour.
Salut, c'est Daniel Mermès, là-bas si j'y suis, avec Emmanuel Todd et François Ruffin, quand on gobe une noix de coco ou le grand détraquage. Voilà, et bien avec nous aujourd'hui deux politologues qui s'appellent François Ruffin, bien connu des auditeurs de là-bas si j'y suis, et un autre politologue qui est plus que politologue, comme Ruffin n'est pas seulement politologue, qui est Emmanuel Todd. De quoi est-ce qu'on va parler? On va partir peut-être des petits bouquins que sort François Ruffin, chez Fakir, des petits bouquins pas chers d'ailleurs. Il y en a un qui s'intitule « Faut-il faire sauter Bruxelles ?» La réponse, à mon avis, c'est oui.
On la met à la fin du livre pour maintenir le suspense.
Voilà, jusqu'au bout. Et puis un autre bouquin, « Pauvres actionnaires, 40 ans de discours économique du Front National passé au crible par François Ruffin lui-même », suivi d'un entretien avec Emmanuel Todd. C'est écrit en tout petit, Emmanuel Todd. Mais enfin, quand même, c'est une partie du bouquin. Alors, on va peut-être partir de ça, ou plutôt, avant d'aller vers ces thèmes qui sont suggérés, le Front National, l'Europe, on va peut-être vous demander, par exemple, à Emmanuel Todd, vos réactions. On est lundi, lendemain du premier tour des élections municipales. On sait votre approche à travers la démographie de notre société, de notre culture, des profondeurs de ce pays. Est-ce que, au vu des résultats de ce premier tour, vous voyez une coïncidence et des affinités entre votre travail et ces résultats?
Oui, bah, je pense que je suis un peu comme tout le monde en ce moment. Je pourrais faire un numéro de genre, je ne suis pas très surpris par les résultats. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une poussée du Front National qui est en un sens normal, c'est vu les niveaux de nullité auxquels on est arrivé au niveau gouvernemental et d'irresponsabilité auxquels on est arrivé dans la droite dite classique, ça aurait été quand même super étonnant, hein, dans l'ambiance de décomposition économique actuelle et de ridicule international européen, ça aurait été assez étonnant que le Front National ne fasse pas un bon score. Et il l'a fait. Mais d'un autre côté, je suis aussi frappé par le caractère encadré de la percée du Front National et par en fait une certaine capacité inerte conservatrice de la société française. C'est-à-dire quand on regarde les zones de poussée du Front National et les régions où il est vraiment menaçant, en situation de prendre des mairies, c'est-à-dire le Nord, Hénin, ou la région Béziers, Perpignan et ces coins-là, ce sont des zones sinistrées, en fait. Pas simplement sur le plan économique, sur le plan économique et moral. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de désintégration des sociétés locales. Et donc, c'est là-bas, c'est dans des endroits assez particuliers, pour moi, que le Front National... Enfin, on verra au deuxième tour, si on n'a pas le deuxième tour. Mais il y a aussi une analyse un peu paradoxale du fait que, au-delà de la décomposition économique, la société française ne va pas aussi mal qu'on le dit. L'état social n'est pas mort, il y a toutes sortes de paramètres démographiques qui vont bien. Donc c'est une société qui est effectivement en train de se déliter sur les bords, par le bas, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on peut revenir. Et bien donc c'est normal d'avoir une poussée du Front National, poussée de l'extrême droite. Puis les socialistes, la droite, sont toujours là, commentés. Bon, de plus en plus endormis à la télévision. C'est vrai que le dialogue... j'ai regardé hein, hier soir le résultat électoral, ce pays de droite et de gauche. Je ne sais pas si c'était moi ou si c'était eux, mais je ressentais comme étant pas vraiment dans le truc. Donc on voit bien que le conflit de droite-gauche est pour une bonne part une vaste comédie. Donc je suis pas... voilà.
Et François Ruffin, qui vient d'Amiens, hein, tu es venu d'Amiens ce matin directement jusqu'ici. Tu es aussi serein qu'Emmanuel Todd.
Ouais, j'ai pas dit que j'étais serein, c'est horrible. Hein,
ah ben, j'ai entendu ça. Oui,
non,
ça
mais dire
que
une société n'est pas au bord de l'effondrement, ça n'est pas être serein. C'est,
ouais.
J'aurais pu dire, c'est hallucinant, la société française est sortie de l'histoire. Vous voyez, c'est la belle au bois dormant, c'est juste ridicule. Non, serein n'est pas le mot. Hein.
Alors, moi, vous voulez une vision picardo-centrée, donc je vais vous l'offrir. Concernant le Front National à Amiens, par exemple, au hasard, il était absent, il a été quasiment absent pendant 10 années dans la ville. Il n'y a pas eu un tract du Front National de déposer dans ma boîte aux lettres. Pour l'affichage, le candidat du Front National a dit que l'affichage n'était pas sa priorité. Les bulletins sont arrivés trop tard pour que les professions de foi soient glissées à l'intérieur des enveloppes. Donc, ça n'était même pas glissé à l'intérieur des enveloppes. Et malgré tous ces handicaps, le Front National fait 15% à Amiens, sachant que Amiens est une ville qui se porte grosso modo mieux que la Somme ou que le reste de la Picardie. Donc, je pense que là, il y a quand même une percée réelle du Front National, en tout cas dans ma région. Maintenant, je me propose d'expliquer le raisonnement d'Emmanuel Todd. Si vous,
la pensée d'Emmanuel Todd. Voilà.
Je voulais expliquer...
Le todisme
concernant le Front National.
Ruffin, le todologue. Je crains le pire, il a un style pas très particulier.
Il y a deux analyses qui, pour moi, se cumulent dans la pensée d'Emmanuel Todd concernant le Front National, mais aussi concernant la situation économique de la France, et ainsi de suite. Le premier type d'analyse qui est dans L'illusion économique, un bouquin qui est paru à la fin des années 90, c'est en fait un raisonnement de classe. C'est de dire, aujourd'hui, les délocalisations, la mondialisation, la perte du niveau de vie, ça frappe une classe particulière qui est les ouvriers et le reste des classes populaires qui sont frappés en premier lieu. En revanche, la petite bourgeoisie ou les classes éduquées et ainsi de suite échappent à cette mondialisation. Et donc, on a là un phénomène qu'il appelle le divorce des deux cœurs sociologiques de la gauche. C'est-à-dire que le prolétariat ou les classes populaires n'adhèrent plus à la vision optimiste du progrès et de la mondialisation qui va bien se passer et de construisons l'Europe ensemble et s'en défont, se détachent donc en gros du Parti Socialiste. Et de l'autre côté, les classes éduquées qui ne sont pas frappées en premier lieu, c'est pas qu'elles adhèrent à cette mondialisation, mais elles l'acceptent. par ce qu'il appelle du passivisme. Et donc, on a là, politiquement, quelque chose qui se passe, c'est le divorce de ces deux cœurs sociologiques, avec un électorat ouvrier ou populaire qui part tantôt dans l'abstention, tantôt dans le vote Sarkozy, tantôt dans le vote Front National, et de l'autre côté, les classes éduquées qui demeurent fidèles au Parti Socialiste, en gros. Et donc, voilà, et ça, c'est un raisonnement qui, moi, comme crypto-marxiste, ou, me convenait assez bien, et on disait, donc, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que les classes éduquées se mettent dans la tête, par solidarité avec les classes populaires, que si elles ne veulent pas qu'elles votent Front National, qu'on lutte ensemble contre cette Europe-là, contre cette mondialisation. Maintenant, il y ajoute un deuxième type de facteur. Et c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Le deuxième type de facteur, c'est qu'il dit, attention à cette frappe sociologiquement ciblée, il y a ce qui se passe dans le vote Front National, c'est un glissement géographique. C'est-à-dire qu'auparavant, le vote Front National était un vote qui était extrêmement corrélé, très proche des lieux d'habitation des immigrés. Et il y avait une très forte corrélation entre le vote Front National et la présence des immigrés. Et ce qu'il observe, c'est que cette corrélation, elle se distend complètement, voire elle n'apparaît plus du tout. Et il voit
ça,
autre chose.
Ça, c'est le boulot que j'ai fait avec le Braz.
Oui, c'est ce qu'on appelle la deuxième couche de Todd. C'est plus dans l'illusion économique, mais c'est dans le mystère français. Donc là, il y a quelque chose qui passe sur le terrain géographique. Et il dit, regardez, qu'est-ce qui se passe ? Le Front National est en train d'occuper toutes les zones géographiques qui ont fait la Révolution française, tout ce qu'il appelle, en tant que démographe, de tradition libérale égalitaire. C'est quoi ces zones ? C'est le Nord-Pas-de-Calais, c'est la Picardie, c'est la Champagne, c'est la Lorraine, c'est la vallée du Rhône, c'est la Provence. Et on a là toutes ces régions qui ont fait la Révolution française, plutôt jacobines, enfin, ainsi de suite, qui, là, ont un fort vote Front National. Donc là, moi je dis, mais alors là, on peut prévoir une victoire du Front National, si jamais ils arrivent à occuper le cœur politique du pays. Et là, Todd introduit une nouvelle donnée qui est à l'intérieur de ce...
Philippot m'avait dit ça, après une émission.
Voilà, alors vas-y, fais Philippot.
Non, c'est tout. Non, c'est toi qui faisais Philippot.
Florian Philippot lui dit, bah alors... Florian Philippot dit à Todd, mais alors, si c'est comme ça, le Front National, on va conquérir le pays. Mais
il était moins articulé que toi, quand même.
Mais bon. Todd dit, attention, il y a un souci pour le Front National, c'est-à-dire une chance encore pour la République, c'est qu'il y a le verrou de la région parisienne. Et c'est le cœur politique du pays, c'est la région parisienne. Qu'est-ce qui se passe dans la région parisienne ? On voit, vote Front National à Paris, aujourd'hui, 7%.
Ah oui, c'est tout à fait vérifié par la dernière élection. Mmh.
Pourquoi ? Parce que dans la région parisienne, il y a un double phénomène, c'est une surreprésentation des éduqués, des gens qui ont un bac plus 2, bac plus 4, bac plus 1, des classes supérieures qui sont surreprésentées, et également une très forte présence des immigrés et des enfants d'immigrés. Et donc, finalement, il y a une alliance objective qui se forge entre ces deux groupes, entre les très éduqués qui refusent de voter Front National et d'être assimilés au Front National, et évidemment les immigrés et les enfants d'immigrés qui sont fortement présents en région parisienne. Et donc là, il y a comme un verrou au milieu de tout ce qu'il appelle la zone de tradition libérale égalitaire qui se fait, et qui fait que là, il y a une tension. On ne peut pas dire que le Front National, il l'emporte dans le pays, parce qu'il y a quand même ce cœur politique du pays qui continue à résister, quoi.
Emmanuel Todd, comment vous expliquez qu'un gars comme François Ruffin se gourre depuis des années ? C'est-à-dire que François Ruffin, il nous a dit « je suis crypto-marxiste ». C'est-à-dire qu'il appartient à un courant qui est celui qui, au début des années 90, avec des gens comme celui du monde diplomatique, ont dénoncé l'horreur économique. Il appartient à ce courant qui est passé par Attac, qui a été cette dénonciation des effets du libre-échange, la critique de la construction européenne, qui, en 2005, a été si vaillant pour aboutir au nom, au traité constitutionnel européen, etc., qui est passé par le NPA, par Beauvais, par Mélenchon, etc. Non mais voilà, tout ce courant-là est complètement dépouillé, complètement à plat maintenant, et toutes les idées qui ont été montrées, tout ce qui a été mis en lumière, en valeur par tous ces gens-là depuis 25 ans... Marine est arrivée, elle se fait couler un bain et elle pique absolument tout ça tranquillement depuis quelques années. Elle prend toutes ses valeurs, toutes ses idées, les symboles, le langage et elle triomphe.
Non, oui. Alors, d'abord, je ne présenterai pas... pour moi, il a plutôt raison sur presque tout. Si on l'avait suivi, ça irait mieux. Mais
voilà. Pourquoi on ne l'a pas suivi ? Pourquoi est-ce que la France n'a pas suivi François Ruffin ?
C'est-à-dire que sous... il est, c'est lui-même qui a joué à faire le néo-marxiste, hein, donc on peut y aller.
Ah, il l'a
donc,
dit, il l'a dit.
Donc il y a chez lui une sorte, probablement une sorte de surestimation du paramètre économique. C'est-à-dire que c'est l'économie, c'est les classes, c'est la technique, en fait tout ce qu'on veut. C'est aussi, quand on est là-dedans, on comprend pourquoi, quelque part, les percées du Front National sont des illusions. C'est-à-dire que c'est vrai que Marine Le Pen et ses copains se sont emparés de toutes les idées intelligentes qui naissent à la gauche de la gauche, donc des gens comme Sapir, enfin, de tous les producteurs d'idées utiles, en fait, et qui peut-être serviront un jour, mais elle ne pourra rien en faire. Parce que c'est des idées qui ne peuvent fonctionner que si c'est comme un code, il faut ajouter à cette idée un idéal d'égalité et de progrès. Voilà. Donc, par exemple, le protectionnisme. Donc, le Front National parle de protectionnisme. Mais l'idée protectionniste, c'est une idée économique, mais c'est une idée économique qui ne peut fonctionner que dans un certain contexte culturel et national. Et donc, le protectionnisme, fondamentalement, c'est la solidarité de tous les travailleurs sur un territoire. Donc, bien entendu, pour que ça marche, il faut inclure les immigrés et leurs enfants. Mmh. Et donc, c'est quelque chose qui ne peut être vraiment mis en pratique qu'avec, en plus, un esprit de reconstruction nationale qui inclut tout le monde. Donc, quand le Front National parle de protectionnisme, il parle d'un machin qui, en fait, en pratique, n'a aucun sens. D'ailleurs, les premiers bénéficiaires de stratégies protectionnistes, ce seraient les enfants d'immigrés, en fait, qui sont les plus faibles sur le territoire national.
Oui, mais Emmanuel, pourquoi est-ce que Sapir n'y est pas arrivé? Vous citez, on va citer certains souverainistes, certains courants souverainistes, on va citer effectivement les idées de Sapir sur le protectionnisme, etc. Oui. Pourquoi est-ce que ce courant, qui ne date pas d'hier, dont vous êtes un compagnon de route, voilà.
Oh non, un peu plus que ça, hein. Je veux dire, j'étais l'un des premiers à faire une conversion.
D'accord. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas imposé non plus?
Ça ne s'est pas imposé, mais ça ne veut pas dire que ça ne s'imposera pas.
Ouais.
Et je veux dire, et il y a des virages, etc. On est aussi à un moment de l'histoire où le néolibéralisme est au bout du bout de son cycle. On est dans un reversement, au bord d'un renversement de l'histoire qui dépasse largement la société française. On est aussi dépendant de ce qui se passe ailleurs. Donc le renversement est tout à fait possible. Et l'idée que les économies occidentales doivent se stabiliser et se reconstruire en utilisant plus de régulation et de protection, c'est une idée dont on peut tout à fait imaginer qu'elle progresse aux États-Unis. D'ailleurs, elle progresse, en fait, aux États-Unis. C'est ce qu'était le dernier discours d'Obama. Je veux dire, c'est des vagues planétaires quand ça se passe. Mais c'est simplement que si on passe au niveau de l'analyse sociologique interne, il faut que la conversion à ces idées doit se faire chez les jeunes éduqués supérieurs. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas faite par les masses populaires opprimées seules. C'est-à-dire que la magie de l'histoire de France, je veux dire, c'est ces phénomènes de bloc à un moment donné où tout le monde se retrouve d'accord contre 1% de supérieurs, des aristocrates à la lanterne et toutes ces choses-là. Mais il faut bien entendu qu'il y ait participation populaire, mais il faut aussi, dans les classes moyennes, et pas juste les classes moyennes inférieures, dans les classes moyennes supérieures et une partie des élites, et actuellement, les jeunes éduqués supérieurs, qui commencent à peser très lourd, ils sont, pour des raisons culturelles, ils sont dans des tripes hyper individualistes. Et c'est vrai qu'ils prennent tout dans la gueule, donc ça peut changer, parce que c'est eux qui prennent le plus les effets du libre-échange avec le monde ouvrier. Mais actuellement, ils sont plus dans visiter le monde ou foutre le camp et regarder à l'extérieur que dans un trip de reconstruction nationale.
François Ruffin.
On ne peut pas exclure que ça ne se passe pas.
François Ruffin, le peuple lui-même ne peut rien sans les classes éduquées. Ça vous va, ça?
Ouais,
c'est le prochain édito de Fakir.
Non, c'est déjà...
Le peuple ne peut rien.
C'est l'édito de Fakir depuis maintenant un paquet d'années. À savoir que contre le divorce des deux cœurs sociologiques de la gauche et la nécessité d'une réunion des deux cœurs sociologiques dans l'histoire de France, qu'est-ce que c'est 1789? C'est la capacité de jonction de la petite bourgeoisie intellectuelle ou d'une petite bourgeoisie intellectuelle à l'époque, à savoir les avocats, pour beaucoup, qui étaient les représentants du tiers-État de l'Assemblée nationale, de jonction avec avec les classes populaires des villes pour la Bastille, les classes populaires des campagnes avec la Grande Peur. 1936, le Front Populaire, c'est la jonction des ouvriers et des intellectuels hostiles au fascisme. Pendant que mai 68, c'est la jonction difficile, tout ça c'est la jonction confrontation des étudiants.
C'est une jonction qui n'a pas vraiment eu lieu en
68. Oui, mais bon, il n'y aurait pas eu mai 68 s'il n'y avait pas eu les deux, en tout cas. S'il n'y avait pas eu les étudiants et les ouvriers. Effectivement, aujourd'hui, par exemple, il y avait des unes de Charlie Hebdo sur le peuple moustachu qui était veule, qui allait dans les campings, qui buvait du pastis, qui jouait à la pétanque, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a toute une culture des éduqués qui s'est développée pour dénoncer le peuple comme étant un truc sale, un truc avec qui il ne fallait pas se mélanger.
Ça provient effectivement des classes moyennes
qui
ont eu dans les années 70, après avoir divinisé le peuple après la Deuxième Guerre mondiale, je parle de chez nous, qui brusquement, dans les années 70, sont mis à en faire un espèce de beauf, hein, qui d'ailleurs maintenant n'étonne personne quand ils votent pour le Front National.
Voilà. Alors, ça veut dire qu'il y a eu deux phénomènes, un phénomène économique qui s'est conjugué à un phénomène culturel, c'est-à-dire qu'en même temps que les classes populaires se prenaient les pains de la mondialisation avec le secteur textile qui se barre le bois et ainsi de suite dans la tronche, ils étaient discrédités sur le plan symbolique, représentés comme des partisans de la guillotine et du pinard, quoi. Et moi, je crois que si jamais on ne sort pas, mais je vois des signes de sortie de cette haine réciproque, pour ainsi dire, ou de ce divorce de classe, si jamais on ne sort pas de ça, bah oui, la suite est assurée pour... c'est vrai que quand je vois ce type de réflexe sur le peuple qui boit du pastis et tout ça, et que ça vient de mon camp, à savoir de la gauche critique, ben ce sont des réflexes à combattre sur le champ. Quoi.
Des réflexes à combattre, mais ça ne dispense pas de réfléchir de façon concrète à ce qu'est devenu le peuple. C'est-à-dire que derrière ces caricatures, ces mises en boîte de prolos, il y a cette espèce de déception des élites d'extrême gauche de ce que le peuple, tout d'un coup, manifeste une aptitude à la révolution plus du tout certaine. Et la réalité, c'est que c'est vrai qu'actuellement, les milieux ouvriers, je veux dire, on en prit plein la gueule à cause de la mondialisation. C'est tout à fait évident dans le Nord, dans l'Est, etc. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus oublier tout ce qui s'est passé pour les milieux populaires en termes de niveau de vie depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et l'acquis d'enrichissement, je vais faire le coup vache, mais régulier. Cher ami, vous êtes trop jeune pour avoir vu comment vivaient les gens au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avant les Trente Glorieuses. C'est-à-dire que c'est vrai que les milieux populaires sont potentiellement en grande souffrance et avec des destructions de mode de vie, mais le niveau de vie atteint par les milieux populaires quand on a connu l'immédiate après-guerre est incroyable. C'est-à-dire que...
Oui, Emmanuel, bien sûr, on parle de niveau de vie.
Oui, mais les gens, c'est-à-dire ce qui est très difficile quand on est dans la pensée critique, c'est d'accepter l'idée que dans une bonne partie des milieux populaires, ce qui domine, c'est la peur de perdre l'acquis. Et c'est évidemment encore plus fort pour les gens qui ont connu cette période de l'après-guerre. C'est-à-dire que les gens qui ont connu les périodes où les gens n'avaient pas de salle de bain, pas de toilette, où il y avait des seaux à merde et des choses, où les gens n'avaient pas de voiture. Donc il y a cet acquis d'enrichissement. Oui. Et donc ça donne, par exemple, je veux dire là, les ouvriers, ils votent Front National, ils ne sont pas contents, ça ne suggère pas une grosse adhésion à l'idée d'égalité. Mais l'un des phénomènes incroyables auxquels on a assisté au début de la dernière période de désindustrialisation, c'est des gens qui... Il y avait encore une époque où les gens voulaient sauver leur outil de travail. Et ensuite, on arrive, le problème, c'est d'arriver à l'âge de la retraite pour sortir du jeu économique complètement et atteindre, comme dans les jeux, là, aux banques, atteindre le moment où on devient un petit niveau, mais quand même un niveau qui est très élevé par rapport à ce qui existait avant, un rentier du système. Alors ça, évidemment, pour les jeunes, c'est affreux. Il y a aussi cette dimension des classes d'âge. Donc je pense qu'il ne faut pas la mise en boîte des milieux populaires style Harakiri, simplement insupportable, vraiment insupportable sur le plan moral. Mais on ne peut pas se dispenser d'une analyse de ce que sont devenus les milieux populaires et de l'adhésion quand même malgré tout d'une bonne partie de ces milieux populaires, de soumission à l'idée d'inégalité malgré tout.
La grande différence quand même qui pouvait exister entre ces époques que j'ai vécues, vous moins, mais moi plus, juste, c'est quand même qu'il y avait un espoir. Demain, ça ira vachement mieux. Et qu'on le veuille ou non, il y avait une foi qui a été trompée, comme on sait, dans le communisme. Il y avait les églises aussi, qu'on oublie toujours là-dedans, et qui portaient aussi une vision d'espoir. Il y avait aussi une certaine droite technologique qui, demain, ce sera vachement mieux. Il y avait des innovations technologiques tous les jours. Alors, il y avait une espèce de devenir, et une sorte d'espoir, d'espérance. Chacun avait la sienne, en gros. Ça, je ne la trouve plus du tout aujourd'hui.
Oui, mais ce qui est très difficile d'accepter intellectuellement, c'est l'idée qu'une bonne partie des problèmes qu'on a aujourd'hui, de cette inertie, de ce conservatisme généralisé, c'est le résultat du succès des attitudes antérieures. C'est-à-dire que, en fait, on est en train de payer la note idéologique pour le succès de cet espoir et de cette activité de la droite, de la gauche, etc., réunis. Et donc là, on arrive à un moment, on est comme sur une sorte de plateau. D'ailleurs, il y a une sorte de... Peut-être ça va redémarrer, d'ailleurs, sur le plan éducatif. Peut-être que l'histoire n'est pas terminée, elle continue. Hein. Pour moi, c'est la même chose de dire « il y avait un espoir, on allait en avant », et puis de dire maintenant bah, « ça y est, on est arrivé à un plateau, tout le monde est très enrichi. Alors, la société commence à souffrir, à se déliter sur ses franges. Peut-être maintenant, on en est à 20% de gens qui vont pas bien. Mais il y a des verrous suffisants. Il y a des régions, des blocs, la région parisienne ou les grandes métropoles régionales. Et puis, il y a des tranches d'âge qui sont de plus en plus importantes avec le vieillissement. Et il y a un phénomène actuellement de stabilisation conservatrice de la société. Mais je veux dire, de toute façon, là où Ruffin a complètement raison, c'est que si on en reste là et si on ne fait pas comme il dit, ce qui reste d'industrie va foutre le camp, le niveau de vie va baisser comme en Angleterre. Et puis là, on peut se garantir qu'on est reparti pour un tour de manège beaucoup plus agité.
Oh, Dumas, ça patifole, ça fredonne en bleu et or, ça flotte au vent et ça s'affole. Ça nous narre, splendeur des poils en cercle sous nos yeux. Réunification de vieux colons de notre histoire qui mènent les foules aux abattoirs, rassemblés pour fuir leur mémoire. Ça fédère cette ambiance austère et ça m'amène dans ce calvaire. Ça vient d'en haut, c'est traître mort. L'euro, c'est la monnaie, pour concurrence, c'est le dollar. Pour les renards de la finance, ou les avares sans conscience, ça change rien à ton ghetto. Faudra toujours se lever tôt, l'économie de nos pays est partie bien loin de lui.
Attention, messieurs, dames, on va commencer deuxième tour.
Référendum gratuit. Ça parle monde et ça s'évente, ça s'enrichit de grands slogans. Et ça s'oriente dans la vente en oubliant la vie des gens. Ou en nous prenant en otage, loin des cultures et du partage. D'un monde qui se voudrait plus sage, loin de l'amour et du visage. Pourrait briser toutes les frontières sans devoir marchander son frère. Et à quoi bon s'unir pour être plus fort si l'on s'enlise dans ces
On a parlé d'Europe sociale, mais on a eu une banque centrale. Ils veulent combattre l'Amérique sur le terrain économique. De la fusion, font de pension, ils construisent notre prison. Et pour leur fric avec la peau, c'est qu'ils n'auront pas d'euros. L'euro, c'est la monnaie pour concurrence. Et le dollar pour les renards de la finance. Où les âmes sans conscience, ça change rien à ton ghetto.
Alors nous voilà, on va commencer l'émission maintenant. On va commencer l'émission, on va parler, là ça nous amène au protectionnisme, ça nous amène à l'Europe et ça nous amène à l'euro et au deuxième bouquin que sort François Ruffin, faut-il faire sauter Bruxelles? Je vous pose la question, tiens Emmanuel Todd, vous voyez avec Ruffin en train de faire sauter Bruxelles tous les deux.
Alors, je ne suis pas un violent, mais le titre me plaît beaucoup, oui. Enfin, Bruxelles a longtemps été le faux-nez du gouvernement français... voulant réformer au nom de Bruxelles. Maintenant, Bruxelles est ça aussi, et en plus le faux-nez de Berlin, puisque beaucoup de décisions sont prises à Berlin. Mais Bruxelles en soi, la région bruxelloise, l'appareil bruxellois, pour moi, est juste une vaste zone de corruption, c'est-à-dire d'exécutants surpayés, des diverses oligarchies nationales, une zone de corruption. C'est sauter Bruxelles, nettoyer. Oui, bien sûr, en un sens administratif, parce que la ville de Bruxelles et les Bruxellois sont géniaux, c'est ça le paradoxe. Formidable,
tout à fait. Bon, faire sauter Bruxelles, ça veut dire en finir avec l'Europe.
Mais c'est toujours des mots, c'est-à-dire les gens qui disent « en finir avec l'Europe ». Ils parlent comme si l'Europe...
Non, mais cette Europe-là, cette Europe...
Oui, bien sûr, évidemment. Évidemment, la seule solution, une fois que le niveau de vie aura, je dirais, suffisamment baissé, évidemment, les seules solutions sont dans un retour du... C'est même pas d'une idée, c'est d'une action de gauche dans un cadre national. C'est-à-dire, mais ça ne peut marcher qu'avec l'idée d'égalité, de solidarité, d'intégration des immigrés. L'Europe est devenue une machine à ne rien faire, ou une machine à obéir à l'Allemagne maintenant. Donc bien entendu qu'il faut faire sauter Bruxelles et de se débarrasser de ce fatras.
L'autre jour, on avait un auditeur, un routier, on a pas mal de routiers qui nous écoutent l'après-midi. Le gars, il disait, il y en a marre de tous ces Polacks qui viennent bouffer il disait pas le pain des Français, mais qui travaillent pour le quart des salaires qu'on a. Il disait, Daniel, il faut remettre des barbelés. Alors on s'est dégonflé de passer le message et puis...
Non, c'est, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas agir. Je recommanderais la même chose pour les autres. C'est-à-dire que si les nations européennes existent, je veux dire, c'est des constructions de l'histoire. Les gens ont pu rêver qu'on les fasse disparaître. À la limite, le traité de Maastricht a été voté. Les Français ont voté à un moment donné pour disparaître sur le plan monétaire. Et donc, il n'y a pas de nation, pas d'État sans monnaie. Donc ils ont... Mais le problème, c'est que ça va au-delà de la théorie du droit constitutionnel et de la démocratie. C'est, je veux dire, apparemment, ce qu'on constate actuellement c'est en Europe, c'est que les peuples ne peuvent pas voter leur propre disparition. Ils existent à l'insu de leur plein gré. Mais c'est la même chose pour les Italiens, pour les Espagnols, pour les Polonais. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on dit, les sociétés d'Europe orientale ne vont pas bien du tout. Et je veux dire, hors de ce cadre national, la démocratie ne peut pas fonctionner, les individus, les citoyens ne peuvent pas être responsables, on ne peut pas prendre de décisions économiques. Et donc, ce n'est pas juste de se protéger contre les autres. Il s'agit de se mettre dans un cadre où on peut agir solidairement et être responsable de soi.
À quoi ressemble ce cadre, alors, si c'est pas... On revient aux États-nations ?
Bah ouais.
Oui, d'accord.
Je veux dire, la nation, c'est un truc qui marche. L'un des raisons des succès de l'Allemagne, c'est qu'elle est dans un trip national depuis 1990. Je veux dire, les gens ne voient pas que les pays qui réussissent ou qui arrivent à retomber sur leurs pattes sont dans des modes de fonctionnement explicitement ou implicitement nationaux.
On va ployer sous une... Ça commence sous une pluie de bouquins au sujet de la Première Guerre mondiale. Oui. Et je vois déjà les éditos partout qui vont être « Voilà à quoi a conduit le nationalisme et les nations oui. !» Je suis sûr qu'on va avoir des éditos comme ça.
On va surtout avoir un chef-d'œuvre de révisionnisme, puisque l'européisme, pour un historien sérieux, est un révisionnisme. La théorie, c'est le thème de la guerre civile européenne. C'était lancé par un Allemand, là, je ne sais plus si c'était Nolte ou un autre, du genre « Oh, c'est affreux, les peuples d'Europe se sont déchirés au XXe siècle, etc. Et l'Europe, il y a mis bonheur. » Ça, c'est une histoire complètement bidon. L'histoire du XXe siècle, c'est l'Allemagne est devenue cinglée deux fois de suite. Et tous les mecs autour en ont pris plein la gueule et il a fallu tenir. Et finalement, c'était tellement violent que ce n'est pas du tout l'Europe qui a résolu le problème. C'est l'armée rouge et l'armée américaine. Mais c'est un révisionnisme. Donc on se met dans ces états d'esprit où les Français doivent se raconter que la Shoah, c'est leur responsabilité.
Oui.
C'est pas vrai, c'est juste pas vrai. Je veux dire, les Juifs en France ont eu le taux de survie le plus élevé d'Europe, malgré Vichy. Oui, donc c'est simplement... J'imagine qu'on va entendre des monceaux d'âneries, alors que dès les premiers jours de la guerre, l'armée allemande en Belgique a commis des atrocités en 1914, en utilisant des civils belges comme boucliers humains.
Et François Ruffin, moi, on se connaît depuis pas mal de temps, je t'ai vu développer ton idée protectionniste, mais timidement, peu à peu, en te disant toujours, si ça se trouve, je suis en train de parler comme au Front National, je suis en train de parler comme Marine. Donc c'est pas évident. Todd, il fait ça depuis...
Maintenant ça va, et puis bon, oui. Voilà, mais il y a des moments où c'était tangent. Le nombre de mecs qui ont essayé de mettre dans un coin...
Le perroquet de Marine.
Non, ben, c'était avant, c'était une autre époque, oui. Mais c'était une sorte de jeu, je donne pas de nom.
Je pense qu'il y a un truc qui se déroule là, c'est qu'il y a une bataille idéologique interne à la gauche critique. C'est-à-dire que effectivement, pendant très longtemps, se dire que le traité de Maastricht, bah non, on voyait pas trop. L'euro, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Remettre des taxes aux frontières, bah pourquoi pas? Ce genre de choses-là était censuré et se produisait une autocensure chez ceux qui se posaient la question. Parce que dominait à gauche, c'est-à-dire avec le Parti Socialiste, l'espoir européen, l'espoir de la libéralisation mondiale. Et par ailleurs, dans la gauche critique, il y avait un altermondialiste, et il y a toujours un altermondialiste qui espère que le monde va... Il va y avoir une instance qui va gouverner le monde autrement, où les peuples vont se réveiller et orienter le monde autrement à l'échelon mondial, ou un alter-européisme qui espère que les peuples européens vont se réveiller tous de concert et envoyer des représentants différents au Parlement européen, ou alors faire une révolution commune et que ça va bouleverser la face de l'Europe. Et donc, en fait, on a une bataille interne à la gauche critique qui se déroule en ce moment, mais qui se déroule depuis un certain temps, où ces altermondialistes, altereuropéistes, qui sont aussi mes camarades, mes copains, mais ont eu longtemps le vent en poupe, ont dominé la sphère publique, ont été des invités de l'émission Là-bas si j'y suis, ont écrit dans le monde diplo et écrivent dans le monde diplo et ainsi de suite, et où en ce moment il y a un groupe informel d'intellectuels qui fait entendre notre son de cloche sur la question de l'euro, sur les questions européennes, sur les questions de la mondialisation, sur les questions du protectionnisme. Il y a Aurélien Bernier, il y a Emmanuel Todd, il y a Jacques Sapir.
Non, je dirais que ce qui est important, c'est Ruffin et Bernier, parce que la question de la stratification par âge est très importante. Je suis démographe, donc, et actuellement, je commence à militer pour l'extermination de ma propre tranche d'âge. Hein, je suis à 2 ans de la retraite. Et honnêtement, ce que les gens de mon âge pensent n'est plus tellement intéressant. Les idées, en général, ne meurent pas au terme d'une joute intellectuelle extraordinaire. Elles meurent avec les gens qui les portent. Hollande et Sarkozy doivent avoir quelques années de moins que moi, mais bon, en gros, à la louche, c'est quand même un peu la même génération. C'est des mecs qui pensent plus depuis 30 ou 40 ans, qui sont fatigués. Là, il y a simultanément une faillite du système qui devient évidente. On va assister au naufrage intellectuel et politique d'une génération. Et puis, il y a d'autres générations. Moi, quand je faisais des conférences au début sur Maastricht, j'ai vraiment une déformation de démographe. Hein. Je vois le monde par tranche d'âge et par structure familiale. Et donc, au moment de Maastricht, les salles d'opposants, c'était des vieux. C'était des vieux. Et ce qui est tout à fait évident maintenant, c'est que les attitudes critiques sont en train de se déplacer en termes de tranches d'âge. Donc, ça bouge, en fait. Alors, cela dit, il me semble qu'au stade actuel, vu la vitesse des évolutions en Europe, je n'ai pas l'impression que les évolutions idéologiques en France arriveront à maturité avant une crise du système qui viendra pour des raisons internationales.
Mais qu'est-ce qui fait mûrir les mentalités?
C'est bien, c'est qu'il me coupe la parole pour me dire que je dois la prendre.
Vous pouvez couper tout, là. Pardon. Oui.
Non, c'est
pas... Ouais, vas-y.
Non, dans un autre entretien qu'on avait eu, Emmanuel Todd soulignait qu'on était dans cette bataille idéologique dans un moment d'homogénéisation d'une contre-pensée. C'est-à-dire que la difficulté, c'est que jusqu'à maintenant, pour résister au système dominant, en gros, la pensée libérale, il faut des égos assez forts, me disait-il, parce qu'on a en face un rouleau compresseur, et effectivement, il faut un certain orgueil pour y résister. Ce qui fait qu'il y a une somme d'idées différentes, chacun sur son précaré, et qu'on est dans un moment peut-être où il y a une homogénéisation d'une pensée critique sur l'euro, sur l'Europe qui est en train de se construire, quoi.
Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'une des grandes forces de ce qu'on appelle la pensée unique, c'est pas que les gens sont porteurs de leurs idées d'une façon très nette, très violente et très déterminée. J'ai beaucoup réfléchi à ces phénomènes de croyance ces derniers temps, d'ailleurs au niveau du système familial, plus que ces idées-là. Mais c'est que ce qui fait la force d'une idéologie, c'est qu'elle est faiblement portée par beaucoup d'individus qui pensent très peu. Des gens, on peut prendre... Il y a quelque temps, on aurait pu prendre des gens au pouvoir, on aurait pris des gens de droite, mais là, c'est des gens de gauche. Donc, c'est quoi? Bon, Hollande, Fabius, Moscovici, Sapin... Tout ça, c'est des gens qui pensent très peu. Je pense que ça serait une erreur de croire qu'ils ont le cerveau et l'esprit rempli d'une forte volonté, avec une morale d'un certain type, une réflexion... Fondamentalement, c'est des gens... Peut-être même ne pensent-ils pas du tout. C'est-à-dire, moi, quand je vois des gens comme Moscovici ou Fabius ou Hollande, je les ai vus, je ne connais pas bien, mais je les ai vus à beaucoup de portées. C'est des mecs que je n'ai jamais entendu dire un truc intéressant ou intelligent. Et il m'arrive de penser, mais peut-être, en fait, ce sont des puceaux de l'esprit. C'est des gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'avoir une idée. Hein, quelque chose comme ça. Et donc, c'est vrai qu'en face, bon, un mec comme Sapir, il a des idées. Il y a des époques où je n'étais pas d'accord avec lui. Et c'est vrai que les gens qui ont résisté à ça sont... Peut-être qu'on est tous un peu givrés quelque part aussi. Il y a une sorte de rayure qui fait qu'on... Mais on avance, on avance.
Merci à tous les deux. Merci. Pas mal les puceaux de l'esprit. Merci à Emmanuel Todd et François Ruffin, les bouquins de François Ruffin, Pauvres actionnaires, 40 ans de discours économiques du Front National, passé au crible, avec suivi d'un entretien avec Emmanuel Todd. Un autre bouquin de François Ruffin, Faut-il faire sauter Bruxelles, toujours Fakir édition. Et puis l'un des bouquins récents d'Emmanuel Todd et Hervé Lebras, coédité par Le Seuil et La République des Idées, c'est Le Mystère Français. Voilà, jeudi dernier, nous avions consacré une émission à la première grève des manucures chinoises. Nous tenons à remercier Ya Han Chuang, qui avait assuré la traduction. On s'excuse, on l'avait oublié. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas, si j'y suis. Vous pouvez également réécouter cette émission sur le site là-bas.org, là-bas.org, ainsi que sur la page Facebook de là-bas, si j'y suis. La technique aujourd'hui, Dimitri Gronoff et Bruno Poncelet. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérer, préparée avec Jonathan Duong. Et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour là-bas, si j'y suis. Dans l'immédiat, je vous laisse avec Hervé Pochon pour son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Je peux vous demander ce que vous regardez, monsieur ?
Alors, là, je regarde notamment les fesses d'Arès. Il y a trois sculptures masculines devant nous, là. Et donc, celle du milieu, on voit ses fesses. Alors, Arès, c'est le dieu de la guerre grecque, l'équivalent de Mars, quoi. Pour les Romains. Et donc, on est dans la galerie, là, où il y a la Vénus de Milo, c'est l'amant de la Vénus de Milo, bref, dieu de la guerre. Et il a quand même, ici, quand même, les fesses rebondies. Si on imagine après l'équipe de France dans le vestiaire, on a ce genre de fesses.
Oui, ça vous fait penser à des fesses de footballeur, quoi.
Bah, d'athlètes de haut niveau, quoi.
Bonjour à tous et bienvenue au Louvre. Je vous ai pas demandé votre prénom.
Bruno, et j'ai même un nom, Debac.
Qu'est-ce qui vous plaît dans les fesses ?
Il se trouve que je suis guide conférencier, que j'ai monté des visites vues sous cet angle depuis pas mal d'années, et que j'ai fini par monter une visite qui s'appelle Les plus belles fesses du Louvre. Et ces fesses-là sont rentrées dans la sélection, pas de l'équipe de France de foot, mais des fesses des plus belles fesses du Louvre. Elles ont été parmi les dernières à y rentrer, non pas qu'avant je les snobais, mais elles n'étaient pas accessibles. Dans le bouquin que j'ai écrit, parce que j'ai écrit un bouquin sur cette visite qui s'appelle donc Les plus belles fesses du Louvre, et que voici, enfin comme vous avez un micro, ça se voit pas tellement, mais bon.
Non mais bon, je peux lire, édition Séguier. Voilà. Vous êtes vraiment un obsédé, quoi.
Alors pas du tout, je suis pas du tout un obsédé, mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est le regard, c'est comment les gens regardent, les gens en général et en particulier. Quand je fais des visites, encore hier soir, j'ai fait une visite sur les plus belles fesses du Louvre. J'étais 10, c'était pour un anniversaire, il y avait un vieux monsieur de 80 ans, plutôt sympathique. Il y avait quelques femmes avec lui, femmes et hommes. Et une femme, au bout de 4-5 fesses, elle m'a dit « Ah, vous savez, moi, vraiment, depuis le début, je trouve que tout ça, c'est très mort, tout ça. » Et on était avec l'esclave mourant, qui ne lui faisait pas plus d'effet que ça. Et il y avait l'esclave rebelle à côté qui a une cuisse absolument incroyable. Et je lui ai montré la cuisse de l'esclave rebelle. Et là, clic, il s'est passé quelque chose. Là, il y avait de la vie, quoi. Il y avait de la vie. Et donc, j'ai amplifié ça. Après, j'ai été lui montrer une petite terre cuite avec le centaure qui enlace la bacchante et qui lui met une main aux fesses. Et là, là vraiment, la mèche pour elle a continué à s'allumer. Elle a carrément pris feu, quoi. Donc c'était drôle parce qu'elle se mettait à rire, à dire des choses que j'ai déjà oubliées d'ailleurs. Mais très clairement, quelque chose s'était allumé et c'est merveilleux ça. Parce que moi, vraiment, je ne suis pas du tout obsédé. Hein. Il se trouve qu'on pourrait dire que j'essaie de faire un truc facile. Et alors là, je le revendique. Regarder, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que c'est quoi regarder? C'est tout d'un coup être avec une œuvre et puis se laisser aller à l'œuvre. Alors au début, l'œuvre, je la regarde, mais au bout d'un moment, ce qui devient intéressant, c'est quand, entre guillemets, l'œuvre me regarde. C'est-à-dire qu'elle ne me regarde pas, mais à force d'avoir été vers elle, l'œuvre, elle... Donc il y a une certaine fragilité que j'ai ouverte en moi, une petite faille qui est liée à tel jour, telle humeur, tel niveau de connaissance ou quoi, mais c'est vraiment lié à tout un tas de choses. Et on peut très bien avoir tout ça sans y connaître rien du tout, ça j'en suis absolument convaincu, et sinon je ne ferais pas ce métier. Et donc, tout d'un coup, l'œuvre, on y reste plus parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais on n'a pas envie de partir. Donc on est bien, alors avec les fesses, les reins, je ne sais pas quoi. Alors pourquoi les fesses? Il se trouve que si je faisais cette expérience avec des commodes Louis XV, j'aurais moins de monde. Et donc, il y a un côté facile, c'est comme quand un môme essaie de travailler, il faut qu'il commence facile, sinon, s'il commence difficile, il ne va pas travailler plus de 5 minutes. Voilà.
Les pénis ont été abîmés, là, des deux autres statues qui sont à côté, c'est parce que...
Les pénis, c'est des aspérités, donc c'est des fragilités. Vous voyez, les pénis et puis les doigts aussi.
Ah oui, oui.
Mais ce qui est intéressant par rapport à ça, d'une part, c'est qu'en matière plastique, pas plastique au sens sculpture, le pénis, c'est pas très intéressant. C'est un peu toujours la même chose. Les fesses, ça offre beaucoup plus de plastique, comme les pectoraux, comme les cuisses.
Et vous gagnez votre vie avec vos visites comme ça, à regarder les fesses?
Je suis guide conférencier, donc je fais des visites sur les fesses et aussi sur d'autres sujets. J'ai un site, vusousetangle.net, où tout ça est assez clairement dit.
Mais alors là, par exemple, aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes en repérage, si je puis dire. Vous dites, tiens, je regarde, je vois s'il n'y a pas des nouvelles fesses que je peux rajouter à ma visite.
Alors, oui. Notamment sur cet Arès, on m'a demandé des choses par rapport à sa provenance et à son nom, Arès Borghèse. Et je voulais aller vérifier un truc sur le cartel. Donc voilà, c'est à ce moment-là que vous m'avez trouvé. Quoi.
Si on veut en savoir plus, c'est pas compliqué. Les plus belles fesses du Louvre, Bruno Debac, Joël Jolivet. Joël Jolivet, c'est quoi? C'est elle qui a fait les dessins?
Elle a fait les dessins, oui. Elle a fait les dessins.
Aux éditions Séguier.
Voilà, moi, j'ai écrit ce livre pour que la personne qui le lit ait envie d'y aller, voire de s'y précipiter avec peut-être un ou une copine. Qui va dire, mais dis donc, ça a l'air de faire beaucoup d'effets. Voilà, allons-y ensemble. Et je recommande fortement de venir le soir, le mercredi soir et le vendredi soir, car c'est quand même là, dans les nocturnes, où il y a, là, on est la journée, vous voyez, il y a quand même...
Il y a un groupe de Japonais devant nous.
Il y a un groupe de Japonais devant nous. Alors, un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, et on se retrouve demain.
On pense pas à la Maïf pour réduire son budget familial. Pourtant, moi, par exemple, j'ai gagné 26 000 euros sur le crédit de la maison et 9 000 sur l'achat de la voiture. C'est pas rien. Et ça, sans compter les assurances superflues que j'ai résiliées.
Maïf Famille s'attaque à ce qui pèse vraiment dans votre budget. Rendez-vous sur maïf-famille.fr. Maïf, assureur militant. Économie moyenne pour une renégociation de crédit par Crédit Immobilier Direct, intermédiaire inscrit à l'ORIAS et pour un monospace auprès d'Aramis et Auto-IES.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour, c'est la fin d'une partie du mystère. Des images satellites avaient montré ces derniers jours des débris suspects pouvant appartenir à l'appareil disparu avec ses 239 personnes à bord depuis plus de 15 jours, le Boeing de la Malaysia Airlines. Eh bien, d'après le Premier ministre malaisien aujourd'hui, le Boeing s'est abîmé dans l'océan Indien. Najib Razak l'a annoncé il y a quelques minutes.
C'est donc avec une grande tristesse et beaucoup de regrets que je dois vous informer que d'après ces nouvelles données, le vol MH370 a dû terminer son vol dans le sud de l'océan Indien. Nous allons tenir une conférence de presse demain qui permettra de vous donner plus de précisions. En attendant,
Nous voulions vous informer de cette nouvelle dès que possible. Nous partageons avec vous ces informations de par notre engagement en faveur de la transparence et par respect pour les familles concernées.
Najib Razak, le Premier ministre malaisien. La dernière position de l'appareil a été localisée à l'ouest de la ville australienne de Perth, en Australie. La CFDT a décidé de signer finalement le protocole d'accord social qui va permettre d'entériner le plan de reprise de la Redoute et au bout de supprimer 1178 postes d'ici 4 ans. Le syndicat majoritaire chez la Redoute suit donc la CFE-CGC. La CGT, elle, a décidé de ne pas signer le document. Elle continue de juger les indemnités insuffisantes. La direction de la Redoute avait donné jusqu'à ce soir 19h pour signer ce document. Les juges français qui instruisent l'affaire dite des biens mal acquis ont décidé de lever leur mandat d'arrêt international contre Théodorin Obiang. Cela fait suite à la mise en examen du fils du président de Guinée équatoriale pour notamment blanchiment de détournement de fonds publics. Les magistrats français enquêtent sur les conditions dans lesquelles trois chefs d'État africains et leurs familles ont acquis un important patrimoine immobilier en France. Ils avaient obtenu ce mandat d'arrêt après le refus de Théodorin Obiang de répondre à une convocation, mais aujourd'hui son avocat assure avoir obtenu l'accord de son client. Au sommet de l'AE sur la sécurité nucléaire, un accord historique a été scellé aujourd'hui entre le Japon et les États-Unis. Tokyo s'est engagé à renvoyer aux Américains des centaines de kilos d'uranium et de plutonium nécessaires à la fabrication de la bombe atomique. Il lui avait été fourni pendant la guerre froide par la Grande-Bretagne et les États-Unis à des fins de recherche. Cet accord peut être considéré comme une victoire pour Barack Obama qui préconise de sécuriser les stocks radioactifs dans le monde. À ce sommet du G7, les 7 pays les plus riches de la planète doivent aussi évoquer aujourd'hui la situation en Ukraine. Enfin, du côté des municipales, la campagne pour le deuxième tour peut commencer pour Anne Hidalgo à Paris. Un accord a été trouvé entre socialistes et écologistes. Les Verts obtiennent 18 postes de conseillers notamment. D'un point de vue mathématique, cet accord devrait permettre à la candidate socialiste à la mairie de Paris de pouvoir l'emporter au second tour dimanche. Vous écoutez France Inter, il est toujours 16h03.
Tous les samedis à partir de 20h, le grand rendez-vous live de France Inter, présenté par Vali.
Cette semaine dans Live Me Do, au studio 105, une affiche 100% féminine avec la Cosmic Fantasy de Barbara Carletti.
Je veux du mouvement, la magie du mouvement, je veux du mouvement dans cette temps.
La poésie du duo Birds on a Wire.
You lost him in your freedom.
Et la sauvagerie maîtrisée des Savages.
Live Me Do. Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous mercredi à partir de 18h30 devant la porte B de la Maison de Radio France. Ou réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter.
Bonjour Frédéric Lodéon, c'est à vous.
Bonjour Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations.
A tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Ça fait des années qu'on s'inquiète pour la musique enregistrée, à juste titre d'ailleurs. Et voilà qu'on apprend qu'il y a ces temps-ci une belle remontée du disque, comme de l'écoute et de l'achat sur Internet. Pour ce qui est du CD, un beau coffret vient de paraître, 50 Great Recordings, c'est donc 50 grands enregistrements proposés par Sony Music. Et pour commencer l'exploration de cette somme, voici Carl Philipp Emanuel Bach, qu'on célèbre cette année. D'ailleurs, c'est son anniversaire, comme d'autres, comme Gluck, comme Strauss et Rameau. Je parle de Richard Strauss, bien sûr. Alors, le basson, on va l'entendre, le basson, dans un concerto de Carl Philipp. Le basson goguenard, virtuose, audacieux dans l'aigu, éminemment sympathique et même parfois sentimental.
Thank you.
Thank you.